Radio Ndekiluga, le magazine parlementaire.
Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans ce nouveau magazine parlementaire. Cette semaine, nous sommes à la quatrième réalisation. Cette émission est consacrée à la redevabilité des élus de la nation envers leurs électeurs, autrement dit, ce qu'un député doit faire pour ses concitoyens. Quelle est alors la mission d'un député et que doit-il faire à l'Assemblée nationale? Pour en parler, nous recevons comme invité Augustin Agou, député du 1er arrondissement de Bangui. Nous serons dans la circonscription de Ndjoukou dans la Kémo pour mettre en exergue la plainte du député de la localité sur de nombreux cas d'assassinats enregistrés ces derniers temps dans la région. On va aussi revenir sur la loi sur l'Office national de coton votée à l'Assemblée nationale en 2019. La commission élargie est le terme à découvrir. Nous sommes, comme d'habitude, deux au micro.
Joët Bagali.
Igor Djeskin, c'est Napa et c'est moi. La partie technique est gérée par Sylvain Namboa, le professionnel. Une petite pause et c'est parti pour ce nouveau numéro du magazine parlementaire de Radio Ndekiluga. Jean-Eudes, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour Igor Djeskin Senapai, bonjour à tous nos auditeurs.
Comme je l'annonçais au début de cette émission, un député est un représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Selon la Constitution, il est élu au même titre que le président de la République pour un mandat de 5 ans.
Oui, mais Igor, que doit-il faire au palais du peuple pendant son mandat? Augustin Agou, député du 1er arrondissement de Bangui, membre de la commission finance à l'Assemblée nationale.
Je vous remercie, c'est une question pertinente que vous me posez là, Senapai. D'abord, dans un premier temps, chaque compatriote, chaque Centrafricain doit d'abord connaître quel est le rôle d'un député. Un député doit faire exactement quoi? Parce que le constat est aujourd'hui un désordre total qui s'est installé chez nous depuis des décennies. C'est qu'on a mis dans la tête des compatriotes centrafricains qu'un député doit faire tout à la place du gouvernement. C'est le député qui doit construire les ponts, c'est le député qui doit construire les écoles, c'est le député qui doit faire ceci. Pourquoi? Parce que pendant les campagnes électorales, des propositions qui ne tiennent pas debout pour seulement pousser les électeurs à accorder leur voix aux candidats. Et donc, on dit, si vous me votez, je dois faire ci, je dois faire ça. Or, il va faire ça avec quels moyens? Chez nous, nous, l'Assemblée nationale, on n'a pas un budget qui permet à un député. Dans d'autres pays, ça se passe. En Europe, en RDC, mais chez nous, il n'y en a pas. Donc, nous, députés, on n'a que les indemnités. Et ces indemnités-là, tu dois vivre dedans, tu dois t'occuper de ta famille dedans, et tu dois aussi donner un coup de main à des gens qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de santé, ainsi de suite. Donc, voilà le rôle. Le député est là pour représenter la population au niveau du Parlement, pour voter les textes qui sont en faveur de sa localité ou de sa population. Voilà le rôle d'un député. Un député est là aussi également pour contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que le budget national, c'est le député qui doit voter et contrôler son exécution? Voilà à peu près le rôle que doit jouer un député. Donc aujourd'hui, le député à l'Assemblée nationale doit faire.
Pensez-vous pas que certains de vos collègues députés qui s'absentent beaucoup dans les sessions, dans les rencontres à l'Assemblée nationale, qui ne font pas le travail pour lequel ils sont élus, est-ce que ça n'influence pas sur la population qui les ont élus?
Pourquoi pas? Parce qu'ils ne sont pas disponibles pour défendre vraiment ceux qui ont donné leur voix. Mais moi, je ne suis pas là pour critiquer les collègues, je ne suis pas là. On est tous des responsables. Un député, c'est quelqu'un qui est déjà mûr, c'est un responsable. Donc, chacun doit jouer pleinement son rôle. C'est aux électeurs d'en décider. Parce que ce qui se passe dans l'Assemblée nationale, ça se passe soit à la radio, et tout le monde sait quels sont ceux qui travaillent, quels sont ceux qui ne travaillent pas. Donc, je suis mal placé pour critiquer les collègues, pour dire que tel collègue ne vient pas régulièrement, tel collègue, c'est pas mon rôle, c'est pas sérieux de ma part. Donc, je dis, normalement, un député doit être régulièrement, d'abord au sein de la commission, parce que tout le travail, c'est n'a pas, au niveau de l'Assemblée nationale, là, 80% le travail se fait au niveau de la commission. C'est au niveau de la commission que tu dois avoir les textes. C'est au niveau de la commission là-bas que vous auditionnez les gens qui vont venir. Ça te permet de poser des questions, d'avoir des réponses et avoir des documents de base. Et une fois le rapport établi, on vient à la plénière. C'est pour quelques heures seulement pour débattre et voter. Mais le lot de travail, ça se passe au niveau de la commission.
Est-ce qu'un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions bénéficie d'une exonération de toute taxe sur ses activités? Augustin Agou répond.
Vraiment, je te remercie. C'est une question vraiment très, très importante. Non, je répondais non. J'écoute ça et là dans le quartier. Je ne sais pas d'où ça vient, d'où ça sort. Mais un député, c'est d'abord un Centrafricain comme tant d'autres. Un député n'a pas ce que vous appelez les exonérations. Non, un député député est celui qui doit payer les droits et taxes comme tout compatriote centrafricain. Il n'y a aucun texte de loi. Je suis de la commission finance, c'est n'importe quoi. Donc, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je l'ai vu nulle part et on n'a jamais débattu, on n'a jamais voté un texte de loi qui exonore les députés de paiement des droits et taxes. Mais comment voulez-vous, si l'État prenait ce risque-là de dire que nous sommes 140 députés, c'est n'importe quoi. Si l'État prenait le risque de dire aux 140 députés de ne pas payer les taxes, mais on va priver l'État de notre pays vit que sur la base des recettes fiscalo-douanières. Et si un député ne paye pas les taxes, même si on me disait à moi, Honorable Agou, aujourd'hui que je ne paye pas les taxes, ça va se passer comment? Les gens vont venir de partout, de quartier, vont venir voir le député et c'est lui qui va prendre en charge, en son nom, il va importer et c'est lui peut-être qui va encaisser les recettes. Et l'État n'aura pas l'argent pour faire fonctionner le pays, pour payer les impôts, pour payer les fonctionnaires, les hôpitaux, les écoles, ainsi de suite. Donc, je dis non, il n'y a aucun texte qui stipule qu'un député est exonéré de droits de taxes, un député ne doit pas payer de droits de taxes. Ce texte n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça et je précise que le député doit payer régulièrement les droits de douane et les taxes, les impôts.
Mais il y a certains de vos collègues qui font le trafic d'influence pour influencer par rapport à leur position pour échapper aux taxes, pour échapper à certains fonds qu'ils devaient verser, payer à l'État.
Je vous remercie. C'est quelque chose que je n'ai pas les preuves. Mais bon, donc vous parlez de trafic d'influence, c'est vous savez, nul est au-dessus de la loi. La loi, elle est là. Je vous ai dit, moi, par exemple, je suis opérateur économique. Mais à ma connaissance, je ne me suis jamais présenté. Sauf qu'on me dit ici, M. Agou a déjà fait une fois, pour dire que je suis député et que j'ai amené ma marchandise, que je ne dois pas payer les droits de douane, c'est impossible. Je connais la loi. Je dis bien, nul est au-dessus de la loi. Et donc maintenant, s'il y a des trafics d'influence, cela n'engage que ceux qui ont accepté, à un moment donné, qui est ce trafic d'influence, là, ceux qui ont accepté. Parce que logiquement, moi, je suis douanier. Par exemple, si je suis douanier ou je suis un inspecteur des impôts, qu'un député vient et essaie de me faire le trafic d'influence, je vais lui demander sur quelle base. Sur quelle base? Parce que seulement les trucs, parce que la douane, les impôts travaillent sur la base des textes de loi appelés la loi des finances. Et si dans la loi des finances, c'est écrit nulle part que les députés sont exonérés des droits de taxes, mais moi, en tant qu'inspecteur des impôts, en tant que douanier, je ne peux qu'appliquer les textes de la loi. Et si ce douanier-là s'amuse à se plier devant ce que vous appelez trafic d'influence, et que si je suis son supérieur, qu'il y a un contrat qui arrive, mais ce monsieur doit être sanctionné. Parce qu'on va lui poser la question, bonnement, sur quelle base tu as libéré la marchandise à Honorable Agou et que tu n'as pas prélevé les droits de taxes. Vous voyez, à ce moment-là, il sera devant les faits et devant les tribunaux. Donc, ce n'est pas, je précise aux Centrafricains qui m'écoutent, je suis chef de justice, je dois dire la vérité, il n'y a aucun texte de loi qui indique que les députés sont exonérés de paiement des droits et taxes. Il n'y en a pas. Tous les députés sont comme les Centrafricains lambda et les députés doivent payer les droits et taxes. Maintenant, à titre gracieux, un député peut aller voir par exemple le ministre des Finances qui est le seul qui peut décider de dire que bon, on ramène au lieu de 1000 francs, député a groupé payer 500 francs. Ça dépend de lui. Il peut apprécier et à ce moment-là, il y a des formalités. Le député doit saisir par écrit le ministre des Finances et demander son indulgence. S'il trouve que c'est fondé, c'est nécessaire, à ce moment-là, il donne les instructions à la direction de douane pour qu'on puisse dire, bon, au lieu que la groupe paye 1000 francs, vous voulez vous autoriser à payer 500 francs. Mais dire qu'un député ne doit pas payer les droits de taxes, non, je ne pense pas. Et le texte n'existe pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui stipule que les députés ne doivent pas payer les droits de taxes.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire. Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Igor, mettons le cap sur les villes de province.
Ah, tout à fait, Jean-Eudes. L'unique destination aujourd'hui est la sous-préfecture de Ndjoukou dans la Kémo. Les députés de la localité dénoncent l'attitude des ex-anti-Balaka, auteurs, selon lui, de nombreux cas d'assassinat ces derniers temps à Ndjoukou.
Oui, Igor, d'après l'élu de la nation, plus de 6 personnes accusées de pratiques de charlatanisme ont été froidement abattues par ces hommes armés qui imposent leur loi à la population. Jean-Claude Komia Sambia demande au gouvernement d'envoyer des forces de sécurité intérieure pour la protection de la population.
Je puis dire que dans ma zone de juridiction, il se pose aujourd'hui de sérieux problèmes du point de vue sécuritaire, surtout beaucoup plus en amont de Ndjoukou, où certains de nos compatriotes continuent de se comporter en barbare vis-à-vis de leurs concitoyens. C'est ce comportement-là que nous déplorons beaucoup plus aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement ?
Mais les actes qu'ils ont eu à poser, c'est au-dessus de tout le monde. C'est des comportements qui ne sont pas dignes de Centrafricains. Des comportements consistant à brûler tout un village, à mettre en débandade la population qui s'y trouve, qui était obligé de prendre la large, c'est-à-dire s'enfuir du côté de la République démocratique du Congo afin de sauver leur vie.
Mais quelle est l'identité de ceux qui commettent ces forfaits?
Je disais tantôt que ce ne sont que les propres fils du pays. C'est pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Ce sont nos propres concitoyens, nos propres frères qui, par le fait de disposer des armes en leur possession, se permet le luxe de commettre tout ce désordre-là. Aujourd'hui, je ne cesse de recevoir des appels téléphoniques, voire même certains de mes électeurs qui viennent physiquement me rendre compte de ce comportement, de ce qui se passe sur le terrain. On m'a laissé entendre qu'il y a eu des cas de mort à l'endroit de presque une dizaine de femmes qui ont été accusées du fait de pratiques de charlatanisme, c'est-à-dire de la sorcellerie. Et sans raison aucune autre, ces gens-là ont eu à infliger des sanctions sévères à l'égard de ces femmes-là en leur donnant la mort. On parle déjà de cas de 6 morts. Et là, présentement, devant nous, je viens de recevoir la visite d'un des parents des victimes qui me laisse entendre que il y a une de sa sœur à qui viennent de donner également la mort. Et ne savant à quel saint se vouer, à qui s'adresser, ils sont obligés de faire recours en moi qui suis leur élu afin que je puisse porter au plus haut ce qu'ils sont en train de ressentir comme tristesse, comme amertume.
Il n'y a pas de forces de sécurité intérieure, les militaires centrafricains là-bas dans la zone?
Pour répondre à cette question, je te dirais non. Au niveau de la circonscription de Ndjoukou, tu ne retrouveras aucune force. La gendarmerie qui a été, qui devait normalement être au niveau de la sous-préfecture là, se trouve au niveau de Galafondo. Donc, Ndjoukou est abandonné à son triste sort, à la merci de ses compatriotes là, qui, par faute, qui n'ayant pas constaté la présence d'aucune force là-bas, se permettent de faire ce qui leur vient à la tête.
Certains Banguissois se sont exprimés sur la loi sur l'Office national de coton adoptée à l'Assemblée nationale.
Oui, Igor, cette loi permet de transformer l'ancienne cellule coton à un office pour promouvoir le développement des activités cotonnières.
Écoutons leurs réactions.
L'Office national de coton que l'Assemblée nationale vient de voter, nous, la population, on accepte ça aussi.
J'apprécie ça, en tout cas, pour développer l'économie de la RCA et l'agriculture.
C'est une bonne chose pour le développement de notre pays, la RCA. Parce que beaucoup de jeunes, coton peut développer l'agriculture, aider nos paysans.
Je pense que la représentation nationale a pris ses responsabilités, on va le dire comme ça, parce qu'une cellule a peut-être des actions limitées. Or, si on passe au stade d'office, on a plus de capacités opérationnelles et on donne au pays un engagement pour pouvoir développer les activités liées à la production cotonnière, qui à l'époque nous ramenait beaucoup de devises. Entre-temps, on a perdu un peu parce que bon, il y a eu des structurations du système. Payer les dettes de tous les producteurs de coton, remettez-les au travail, donnez les meilleures semences, accompagnez-les dans le traitement des sols, le traitement des plants de coton. Et donc, on sait que le devenir sera meilleur. Peut-être que nous, on va commencer à produire des habits à partir du coton centrafricain.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Igor, maintenant place à Guy Roger Mouski, député de Mbaïti 3, pour des éclairages sur ce texte.
La loi vient d'être votée par la majorité des députés parce que c'est une attente de beaucoup de cotonculteurs, des paysans. Le coton est très important pour nous et nous qui sommes d'un certain âge, on sait que le coton à notre jeunesse a joué un rôle très important, on nourrissait plus de 1,5 million à 2 millions d'habitants centrafricains et on a été fiers d'avoir de s'habiller avec les produits de nos cotons cultivés par nos propres parents. Donc c'est très important. c'est plus important que le désarmement, c'est plus important. Je crois que en relançant la filière de coton, on va régler beaucoup de problèmes de paix dans ce pays.
Il y a une différence entre la cellule coton et un office.
Une différence organique, déjà par le fait que la cellule n'avait pas d'assise juridique. Et l'office a une assise juridique conditionnée par l'exigence des bailleurs de fonds qui veulent qu'il y ait de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion de cet office-là pour que ça ne soit pas encore une énième office qui servira de cache d'argent ou cache de népotisme et de clientélisme.
Après cette adoption, quelle est la procédure à suivre pour l'opérationnalisation de cette structure ?
La procédure, ça va être complètement au niveau de l'exécutif. Donc le gouvernement est très remonté pour que ces choses-là se réalisent très rapidement. Et la population ne cesse d'attendre que cette activité de coton reprenne. Il y a des problèmes d'arriérés. Le gouvernement va faire de telle manière que progressivement les choses vont se régulariser. Mais avec l'apport des bailleurs de fonds, on va peut-être voir le gouvernement à l'œuvre pour relancer effectivement cette activité de coton qui occupe pratiquement 60% du territoire national.
Vous écoutez Radio Ndeke Luka, l'oiseau de bon augure à Bossangwa dans l'Ouam sur les 100.9 FM. Nous terminons cette émission avec l'explication du terme commission élargie à l'Assemblée nationale. Retrouvons à nouveau Augustin Agou, membre de la commission finance.
Vous savez que nous, dans l'Assemblée nationale, nous travaillons à base d'un texte appelé le règlement intérieur. Et si je ne me trompe pas, nous avons 8 commissions dites commissions permanentes. Parce que vous savez que chaque député est tenu de travailler dans une commission. Donc nous avons 8 au niveau de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on parle de notre jargon, on parle de commission élargie ou tantôt on dit commission mixte, ça dit quoi? Un texte arrive et ce texte-là, plusieurs commissions doivent examiner ce texte. Je prends par exemple commission affaires étrangères, commission finances, commission production, ainsi de suite. Et donc on a assimilé, on regroupe, chaque commission désigne ses membres. Ok, chaque commission désigne quelques membres et on les regroupe pour traiter le texte. C'est ce qu'on appelle commission élargie. Et donc cette commission également peut faire appel à des ressources humaines extérieures pour avoir des informations ou pour les aider à produire un rapport fiable et acceptable.
C'est sur cette note que prend fin ce magazine de Radio Ndeke Luka. Nous disons merci à tous ceux qui étaient à l'écoute. Nous avons traité de la redevabilité des élus du peuple envers leurs électeurs. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'Institut Républicain International IRI dans le cadre du projet Dialogue entre les élus et citoyens dans le cadre de la consolidation de la paix. C'était une présentation de
Joët Bagali
et Igor Djeskin Senapaï. À la gestion numérique, nous avons Sylvain Ambo, le professionnel. Nous remercions aussi le staff de communication de l'Assemblée nationale. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.